Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
La dangerosité d'Internet, on l'a entendu avec Mounir Majoubi, le discours chez un certain nombre d'acteurs d'Internet consiste à dire finalement que cet outil sert à tant de monde qu'on ne peut pas, au nom donc de ses turpitudes, fût-elles graves comme dans le cas du terrorisme, légiférer plus que c'est le cas aujourd'hui. Eh bien, on continue à l'évoquer, non seulement en compagnie de Mounir Majoubi, qui est président du Conseil national du numérique, de Xavier Delaporte, qui tient le billet numérique dans les matins, mais aussi d'Adrienne Charmet. Bonjour, vous êtes porte-parole et coordinatrice de la Quadrature du Net, et de Jean-Marc Manac. Bonjour. Vous êtes journaliste d'investigation et spécialiste des questions touchant à la surveillance et à la vie privée sur Internet. Et l'un des enjeux de ces débats en cours consiste à savoir s'il faut autoriser de manière libre le chiffrement sur Internet. Le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, lui, semble avoir tranché.
Les échanges de plus en plus systématiques opérés via certaines applications telles que Telegram doivent pouvoir, dans le cadre de procédures judiciaires, et j'insiste sur ce point, être identifiés et utilisés comme éléments de preuve par les services d'investigation et les magistrats au niveau national. Et le niveau de coopération n'est pas le même suivant les opérateurs. Je pense notamment à l'application précitée pour laquelle les États ne disposent d'aucun interlocuteur.
Des propos tenus le 23 août dernier par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Votre réaction à ces propos, Jean-Marc Manac, en commençant tout d'abord par nous rappeler ce qu'est Telegram.
Telegram, c'est une messagerie instantanée, une sorte de réseau social qui est à tort présenté comme un système de messagerie cryptée ou chiffrée, à tort parce que à ce stade des enquêtes, on n'a pas d'éléments de preuve qui montrent que des terroristes s'en seraient servis de façon chiffrée pour protéger leur communication. On sait qu'il y a eu deux adolescentes qui ont été arrêtées il y a une dizaine de jours parce qu'elles communiquaient sur le réseau social Telegram et communiquaient en clair. Le terroriste qui a assassiné un prêtre, on a eu des captures d'écran de ces communications en clair qui ont été publiées dans la presse. Donc on ne sait pas exactement à ce stade si Telegram est utilisé pour chiffrer les communications des terroristes. Donc c'est là où je ne comprends pas cette focale qui est faite depuis quelques mois sur Telegram, présentée comme un outil qui permettrait de protéger les communications des terroristes, alors que ça sert essentiellement à des djihadistes ou à des terroristes à faire de la propagande ou à communiquer entre eux sur des forums de discussion qui sont en clair.
Mais alors attendez, vous êtes en train de nous dire par exemple que ce terroriste, celui qui a assassiné le prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray, on a dit donc qu'il avait sur sa liste Telegram 200 personnes qui recevaient ces messages. Est-ce que ces messages, on aurait eu tous la possibilité de les lire, de les écouter ?
Alors tous, non. Il fallait être accepté dans le réseau en question. C'est un petit peu comme devenir ami à Facebook avec quelqu'un. S'il accepte que vous deveniez son ami, bah vous avez le droit de lire les publications qu'il fait sur Facebook. C'est exactement l'équivalent sur Telegram. Donc, et comment les deux adolescentes ont été arrêtées il y a une dizaine de jours ? Est-ce que c'est par dénonciation d'une personne avec qui elles discutaient ? Ou est-ce que c'est parce que les services de renseignement ont réussi à s'infiltrer ? On sait que les services de renseignement surveillent de plus en plus Telegram. Et là, le chiffrement ne change rien à l'affaire.
Est-ce que ça signifie par exemple que ces messages sont chiffrés pour l'administrateur du réseau ? Est-ce que la société Telegram a la possibilité de lire ces messages que les utilisateurs échangent ?
Alors il y a une fonctionnalité qui s'appelle le chat secret qui permet à des utilisateurs de Telegram de chiffrer de bout en bout, c'est-à-dire de chiffrer au niveau du téléphone la communication qu'ils veulent avoir avec quelqu'un. Et là, en pareil cas, Telegram ne peut rien faire. Les messages, ils sont diffusés chiffrés sur leur serveur. Par contre, comme c'était le cas pour le terroriste dans l'église ou pour les deux adolescentes qui ont été arrêtées, là, les communications circulent en clair et donc elles circulent en clair sur les serveurs de Telegram.
Est-ce qu'il n'y a pas dans ce cas-là une coupable négligence à minima de Telegram ? On sait qu'un certain nombre de systèmes d'espionnage, cette fois-ci des États, repèrent un certain nombre de mots-clés. Est-ce qu'il ne serait pas simple de demander à ces opérateurs de surveiller un certain nombre de mots-clés lorsque des messages de ce type sont échangés, Jean-Marc Manac ?
Le problème, c'est que un Telegram, c'est 100 millions d'utilisateurs. Comment vous faites pour surveiller les communications de 100 millions d'utilisateurs ? Ça représente une masse de calculs. Si jamais vous voulez parler d'algorithmes, un peu comme les boîtes noires.
C'était ce que le réseau Echelon faisait aux États-Unis.
Oui, sauf que alors Echelon, d'une part, c'était les communications
satellites. C'était un réseau
d'espionnage
lié donc à l'État, et donc tout mot-clé déclenchait semble-t-il, une alerte dans le réseau échelon.
C'était plus complexe que ça. C'était moins des mots-clés, c'était plus des identifiants. Le problème, c'est arriver à identifier les identifiants des gens qui posent problème. Et comment vous faites pour repérer quelqu'un qui devient terroriste ou qui devient djihadiste ou qui se radicalise? C'est pas si simple. C'est pas uniquement en cherchant des mots-clés que vous arrivez à trouver quelqu'un qui se radicalise. Vous évoquiez tout à l'heure le fait de la consultation de sites djihadistes. Il y a plein de gens qui vont lire, qui vont consulter des sites djihadistes, qui ne sont pas des djihadistes, qui ne sont pas des terroristes, qui sont des gens curieux ou dont c'est le métier parce qu'ils sont journalistes, chercheurs, universitaires, que sais-je. Policiers, avocats. Donc c'est très difficile d'arriver à identifier au préalable, ou alors on rentre dans Minority Report. Et si on rentre effectivement dans Minority Report, la police prédictive, qui se développe effectivement de plus en plus, notamment aux États-Unis, qu'est-ce qu'on voit en matière de police prédictive aux États-Unis? C'est que la police prédictive, elle se focalise essentiellement sur les noirs paupérisés. Et donc, c'est plus de la police prédictive qui va détecter des crimes avant qu'ils ne soient commis, mais qui va se... C'est un petit peu la même chose qu'avec la vidéosurveillance. On sait très bien que en matière de vidéosurveillance, qu'est-ce que vont regarder les opérateurs de vidéosurveillance? Un, les décolletés et les jolies filles. Deux, les jeunes qui ont des capuches et qui sont basanés. Donc on va prédire le crime en essayant de focaliser sur « Ah oui, c'est un jeune basané, donc c'est un potentiel djihadiste, donc je vais le suivre. » Et donc on va rentrer dans quelque chose qui va fabriquer de la discrimination.
Votre avis à ce sujet, Adrienne Charmet, vous qui êtes porte-parole et coordinatrice de la Quadrature du Net.
C'est aussi une question de droit et de liberté. Vous avez l'air d'envisager de manière tout à fait naturelle qu'on espionne les communications de tout le monde. C'est pas parce que c'est sur Internet que c'est pas grave, c'est pas parce que c'est sur Internet que notre intimité n'est pas en jeu. Donc avant de se dire, mais pourquoi est-ce que les services de renseignement n'iraient pas comme ça regarder les communications de tout le monde et poser des outils pour d'analyse en fait des conversations? Il faut se poser la question du droit. Le chiffrement est un droit en France depuis un certain nombre d'années. Ça n'a pas été toujours le cas. C'est devenu un outil essentiel de sécurisation des communications, des transactions, de la circulation de l'information sur Internet. C'est fondamental de le conserver et on ne doit toucher à ce genre d'outils qu'avec d'infinies précautions et avec beaucoup de proportionnalité. C'est ce qu'on, quand on attaque les libertés, il faut le faire avec, pour des raisons très précises, avec de la proportionnalité, etc. Donc, considérer que parce qu'un outil propose du chiffrement, et comme le disait Jean-Marc, Telegram est finalement pas l'outil le plus, probablement le plus obscur pour échanger des communications, quand on veut attaquer ce genre d'outil, il faut le faire avec infiniment de précautions, parce qu'on met en jeu des droits fondamentaux que sont le droit à la vie privée, le droit à la liberté d'opinion, d'expression, d'information, qui sont assez malmenés en ce moment à cause des législations antiterroristes.
Certes, on vous suit aisément, Adrienne Charmet, mais la demande démocratique va, si la vague terroriste se poursuive, demander effectivement plus de sécurité. C'est évidemment la dialectique habituelle entre sécurité et liberté. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité justement de négocier avec ces règles? Est-ce que vous voulez tenir une position maximaliste qui...
On a déjà beaucoup négocié avec ces règles depuis deux ans, et aujourd'hui, si vous écoutez ce que disent les patrons des services de renseignement, ils vous disent on a ce qu'il faut en communication. On a maintenant besoin de les analyser, on a besoin de gens pour les comprendre et pour réinfiltrer les réseaux, etc. On n'a pas forcément besoin d'espionner encore plus, on a besoin de comprendre mieux et d'agir plus en amont sur l'analyse des réseaux.
Mounir Majoubi.
Oui, je pense qu'on n'a pas besoin d'écouter plus. Et si vous revenez à la citation de Cazeneuve que vous venez de passer, la citation du ministre, c'est la citation avec laquelle je suis d'accord. C'est-à-dire que dans toute sa conférence de presse, il a dit beaucoup de choses qui sont très limites, mais là, c'est celle sur laquelle c'est dur de ne pas être d'accord. Il dit « Je veux pouvoir, sur décision d'un juge, sur une personne ciblée, obtenir des informations concernant l'utilisateur, son adresse IP de connexion, avec qui il a communiqué, quand il a communiqué, et si jamais les communications étaient en clair, le contenu de ces communications. »
Il ne parle pas de surveillance de masse.
Il parle pas de surveillance de masse. Ça, c'est ce qu'on a tous accepté en France, c'est-à-dire que sur décision d'un juge, on prend la fadette des journalistes ou des personnes accusées de quoi que ce soit, et puis on regarde ce qui s'est passé, et puis on... cibler une personne, un juge, une décision contrôlée.
Avec des droits,
là,
avec des recours.
On a un problème avec Telegram, parce que Telegram ne répond pas à ces demandes-là. Mais le problème Telegram, c'est pas celui de le chiffrement, limitation du chiffrement. C'est une entreprise qui ne répond pas aux demandes.
Jean-Marc Maninck, depuis le début, on parle de chiffrement et pas de cryptage. Quelle différence?
Vous pouvez fermer une porte, chiffrer un message si vous avez la clé. Il est impossible de fermer une porte quand on n'a pas la clé. Par contre, si vous n'avez pas la clé, vous pouvez ouvrir une porte en la cassant. Donc il est possible de décrypter un message, donc de casser un message quand on n'a pas la clé, il est strictement impossible de crypter un message. Donc on parle beaucoup de messagerie cryptée à cause de Canal+, qui a popularisé le fait que c'est une chaîne de télévision cryptée, donc par extension on parle de messagerie cryptée, etc. Mais c'est complètement faux. Et c'est fondamental de parler de chiffrement, pour effectivement, parce qu'on ne peut pas traiter un problème si on ne comprend pas ce problème. Et pour revenir sur le mot de sécurité dont vous parliez tout à l'heure, il faut bien comprendre que le chiffrement, c'est pas, d'abord et avant tout, c'est pas quelque chose pour défendre la vie privée et défendre les libertés, c'est fait pour sécuriser les communications. Tous les jours, les virements bancaires, quand on se connecte de façon chiffrée, sécurisée, le HTTPS dans son navigateur, c'est fait grâce au chiffrement. Entre les banques, ils s'échangent de l'argent grâce au chiffrement. Donc c'est la sécurité des citoyens est garantie par le chiffrement. Après, c'est clair que de temps en temps, exceptionnellement, il y a des gens mal intentionnés qui vont effectivement utiliser également le chiffrement. Mais c'est un pourcentage extrêmement minoritaire. Et on ne peut pas effectivement nuire à l'intégralité des communications en s'attaquant au chiffrement. C'est un petit peu, pour prendre une analogie, c'est un petit peu comme si on disait qu'on va installer une caméra de vidéosurveillance dans toutes les chambres à coucher, parce qu'on sait que c'est dans les chambres à coucher qu'on lui le plus grand nombre de viols. Bah, ce serait une atteinte aux libertés de faire ça. Bah, de même, s'attaquer au chiffrement, en plus, c'est quelque chose qui, techniquement parlant, n'est pas faisable.
Sur ce même sujet, nous écoutons le Premier ministre Manuel Valls.
Je veux faire ici une mise au point très claire. Les services de renseignement français ne procèdent strictement à aucune interception de communication échangée sur le sol français en dehors du régime ciblé prévu par les interceptions de sécurité.
Alors, on se dit également autre chose, Jean-Marc Manac, vous qui connaissez bien ces sujets-là, lorsqu'on entend le Premier ministre, lorsqu'on entend finalement les déclarations publiques des hommes politiques, de nos responsables, on se dit finalement, disent-ils vrai, est-il vrai qu'aujourd'hui il n'y a pas d'écoute, qu'il n'y a pas d'interception de messages? On sait que sur des téléphones mobiles, il y a eu des écoutes, certaines légales, d'autres illégales. Est-ce que sur Internet, la surveillance est finalement aussi autorisé, aussi orthodoxe qu'ils le disent?
Le problème, c'est que quand on parle des services de renseignement et quand on parle de sécurité informatique, c'est deux sujets qui sont relativement complexes. Et le problème auquel on est confronté, c'est que, c'est pareil pour les journalistes comme pour les politiques, souvent ils comprennent pas vraiment ce que c'est que la sécurité informatique, ils comprennent pas vraiment non plus comment fonctionne Internet. Ce qu'on sait en matière de surveillance, notamment d'Internet en France, c'est qu'il y a des systèmes de collecte de masse qui ont été installés au niveau des câbles sous-marins transatlantiques, parce que c'est beaucoup plus simple, là, de surveiller les communications, parce que c'est une sorte de goulet d'étranglement par où passent les communications, que ce soit téléphone ou Internet, et que la DGSE, donc le service de renseignement extérieur, est habilité à surveiller un certain nombre de cibles. Ces cibles, ça peut être l'État islamique, ça peut être la Syrie, ça peut être Al-Qaïda. Enfin voilà, il y aurait apparemment une quarantaine de cibles qui auraient été validées par Matignon. Donc les cibles, c'est pas uniquement des cibles individuelles. Quand on parle de l'État islamique, ça peut représenter des dizaines de milliers de personnes. Mais que, en même temps, et c'est ce qui a été sacralisé dans la loi renseignement l'année dernière, à partir du moment où il y a un identifiant français qui est surveillé, la DGSE est censée l'écraser. La DGSE n'a pas le droit de faire de la surveillance de masse des Français. Et la DGSI non plus. DGSI contre espionnage.
Adrienne Charmet pour la quadrature du net.
La loi a autorisé et même écrit noir sur blanc que la surveillance internationale était de la surveillance non individualisée, donc de la surveillance de masse. Maintenant, sur le territoire français, donc la loi renseignement, effectivement, dit qu'en théorie, il n'y a pas de surveillance ciblée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interception. Pas de surveillance de masse, pardon, excuse-moi. Maintenant, il y a quand même des mesures dans cette loi, et notamment ce qu'on a beaucoup appelé les boîtes noires, qui vont probablement, quand elles seront mises en action, faire de la collecte assez massive.
Qu'est-ce que
c'est, l'analyse.
Une boîte noire
dans d'après la présentation qui en a été faite, parce que la loi est extrêmement peu bavarde dessus, c'est un système d'analyse des communications pour pouvoir faire sortir des comportements ou des modélisations de réseaux ou de personnes présentant des dangers. Là, on va déjà s'avancer un peu plus vers quelque chose qui ressemble à de l'analyse de données beaucoup plus massive. Donc ce que dit Manuel Valls, c'est à la fois vrai et faux.
Xavier Delaporte.
C'est très compliqué à comprendre tout ça, parce que on a l'impression d'un côté que tout est possible en matière de surveillance et d'écoute, puisqu'il y a boîte noire, IMSI catcher, qui sont des sortes de valises qui permettent d'aspirer toutes les communications dans un rayon de X centaines de mètres, qu'un téléphone est capable, même quand il est éteint, de servir de caméra, d'enregistreur, etc. Enfin bon, quand on regarde la liste des moyens qui sont à disposition pour des services de renseignement, plus ce dont parlait Jean-Marc Manac, c'est-à-dire de la capture sur des câbles, etc. Bon, d'un côté, on a ça, donc on a l'impression que tout ce qu'on peut faire est potentiellement écouté, enregistré, malaxé par des algos, etc. Bon, ça c'est d'un côté. Et puis de l'autre, on a l'impression que les services de renseignement achoppent sur des trucs aussi bêtes que voir comment les gens communiquent sur une application comme Telegram. Et donc on se dit, mais où est le vrai? Alors, que dois-je croire?
En matière de sécurité informatique...
Jean-Marc Manac.
En matière de sécurité informatique, c'est PEPCAC. The problem is between the chair and the keyboard. Le problème est entre la chaise et le clavier. Le problème, c'est l'utilisateur. Regardez ce qui s'est passé à Nice. À Nice, apparemment, le terroriste a réussi à passer 3 fois avec son camion sur la promenade des Anglais. Chose qui était strictement interdite, alors que Nice est la ville la plus vidéosurveillée en France, et où il y a des gens, c'est une des rares villes, où il y a des gens qui sont payés 24 heures sur 24 pour regarder les images de vidéosurveillance. Donc, avant l'attentat, ils n'ont pas été capables, alors qu'il y a plein de caméras de vidéosurveillance, de voir qu'il y avait un camion qui allait dans un endroit où il n'avait pas le droit d'aller. Et là, c'est pas des services de renseignement, c'est juste des policiers municipaux. Donc après, faut pas s'étonner non plus que, à la DGSE, donc la DGSE, c'est l'espionnage extérieur, ils sont un peu moins de 6000, à la DGSI, je crois qu'ils sont 3000 ou 4000, on peut pas demander à des gens qui sont moins de 10 000, d'arriver à surveiller l'intégralité de 66 millions de communiqués. Enfin, il n'y a pas 66 millions d'internautes en France, mais il y a probablement quelque chose comme 50 millions de personnes qui ont un téléphone portable, plus une connexion Internet, et qui font énormément de choses tous les jours. C'est juste matériellement pas possible. Si on en revient à la Stasi, où il y avait un Allemand de l'Est sur 10 qui collaborait avec la Stasi, eh ben on est arrivé à un pays où effectivement il y avait de la délation, et il y a quand même eu des dissidents. La sécurité à 100%, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un problème entre la chaise et le clavier, il y a toujours quelqu'un qui va pas s'apercevoir, qui va pas mal faire son boulot.
Mounir Majoubi.
Et puis parce que matériellement parlant, ce n'est pas possible. On peut pas surveiller tout le monde tout le temps.
Sur ce point des moyens mis à disposition, il y a 3 choses que je veux dire. Il y a ces moyens mis à disposition et puis la loi et les décrets prévoient qui a le droit de les utiliser, dans quel contexte et qui le contrôle. C'est-à-dire que dans une dictature, c'est bien, on fait pas les 3 autres éléments, on fait juste voilà tous les moyens et on les utilise. Et après sur la limitation, c'est ça le point de notre tribune, ça a été de dire utilisons au mieux et au maximum tout ce qui est déjà prévu par la loi et tous les moyens techniques qu'on a.
Adrienne Charmet.
Oui, là encore, ce que je voudrais dire, il y a effectivement plein de moyens qui sont mis à disposition avec pour certains services, pour certains objectifs, etc. Maintenant, on a vu aussi aux États-Unis que la surveillance, la logique de surveillance de masse ne fonctionnait pas. Quand la NSA a été obligée de faire un peu le bilan de 15 ans de Patriot Act, bah finalement, ils ont été obligés de reconnaître que cette surveillance de masse n'avait pas réellement permis d'empêcher un quelconque attentat. Donc il ne faut pas forcément
vous y allez fort.
Ah, ils le disent eux-mêmes, en fait.
Il y aurait quelques dizaines d'attentats qui auraient été déjoués à l'étranger, et il y a juste une personne aux États-Unis qui a été mis en prison, et encore, la seule chose dont il est accusé, c'est d'avoir transféré de l'argent dans son village qui avait été conquis par des terroristes, et il ne le savait pas.
Voilà, donc non, c'est vraiment quelque chose qui, a priori, ne fonctionne pas, donc il ne faut pas forcément s'inquiéter du fait que tous les moyens ne soient pas mis en œuvre, c'est parce qu'ils ne sont pas forcément pertinents non plus.
Jean-Marc Manac, une question, puisque l'on ne peut pas, selon vous, l'interception de ces messages des terroristes, puisque ça pose évidemment des problèmes de liberté individuelle, pourquoi ne coupe-t-on pas Internet à l'État islamique tout simplement à la source? Ces gens-là ont des connexions. Pourquoi ne les coupe-t-on pas, puisqu'on peut les couper à des individus?
Mais parce que tous les gens qui vivent en Syrie ne sont pas de l'État islamique.
Non, mais ceux qui sont par exemple identifiés comme...
Comment vous faites la distinction entre quelqu'un qui habite à Raqqa et quelqu'un qui est membre de l'État islamique et qui habite à Raqqa?
Donc,
soit on coupe la communication à tous les habitants de Raqqa, soit et le problème il est aussi simple que ça.
Est-ce que ce sont les seules explications d'après vous?
Bah, c'est la première sur l'utilisation des moyens civils, et puis il y a les deuxièmes, c'est les moyens gris de communication et d'internet, puisque les terroristes aujourd'hui et les groupes de guerre internationaux utilisent des moyens de communication qui sont prêtés par des états complices, qui sont prêtés par des organisations sur le terrain qui ont des communications satellitaires, qui sont à des noms totalement légitimes, ou en tout cas pseudo-légitimes. Donc en fait, c'est pas possible de décider de leur couper. Et puis il y a aussi le système par réseau. Il suffit que un ait le téléphone et qui demande à un des complices basés dans un pays où là, l'internet est sans aucun problème, sans problème d'accès et qu'il ait une communication cryptée. Et donc, voilà.
Et après, c'est très utile aussi de pouvoir les surveiller. Donc, faut pas leur couper la parole. Là, Twitter a coupé 235 000 comptes en 6 mois. Ben, c'est peut-être un désastre pour des services de renseignement qui se servaient de ces comptes Twitter pour documenter l'avancée de l'État islamique.
Un petit mot, Adrien Charmet.
Oui, je crois qu'il faut faire attention à pas, quand on cherche des terroristes, on a l'impression que tout le monde est terroriste. Bon, sur Internet, la proportion de personnes utilisant Internet à des fins criminelles ou terroristes est extrêmement faible. Et je pense qu'il faut faire vraiment très attention à ne pas regarder Internet uniquement uniquement comme un outil de communication des terroristes, sinon on en finira par légiférer de manière complètement insensée, complètement liberticide, et il faut reprendre Internet comme un outil d'émancipation, de mise en réseau, de communication et de développement.